Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Happy Boulot. Au programme, on va parler de Burger King qui recrute 3000 personnes en France. On va parler viande, on va parler image de la viande, on va parler marque employeur, on va parler aussi opportunités dans l'ensemble des territoires. Ensuite, on zoomera sur la question de la transparence des salaires. Est-ce que vous seriez d'accord pour être transparent sur vos émoluments? On va parler de ça avec deux entreprises qui la pratiquent. Alan avec son DRH Paul Sauflan, mais aussi Yaël Guyon, le cofondateur d'Infusio. Et puis on aura une chasseuse de tête, Marie Ombrouck, qui viendra arbitrer la discussion. Transparence des salaires, bonne pratique, mauvaise pratique. Et puis pour conclure, on parlera encore et toujours de l'engagement salarial avec le témoignage de Ségolène Mouterne, qui est la cofondatrice de Team Starter. Elle nous partagera les plus beaux projets qu'elle a vu passer sur sa plateforme.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
On démarre notre émission avec un DRH dans la fast-food, dans la belle fast-food française. C'est Gaël Mosnick qui est avec nous. Bonjour Gaël.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le DRH de Burger King. Alors je dis la belle fast-food française parce qu'il faut quand même rappeler que Burger King c'est français,
oui.
Qu'on y mange français,
oui.
Et qu'on recrute aussi français. Parce que vous êtes à la recherche de 3000 personnes sur le territoire. On s'était déjà rencontrés il y a une petite année, vous recherchiez déjà 3000 personnes. Alors vous ne les avez pas trouvées ces 3000 personnes ou vous en cherchez 3000 nouvelles?
Ah bah c'est plutôt qu'on en cherche 3000 nouvelles et que ça risque de continuer encore, je pense, quelques années. Quand je suis venu la dernière fois, je crois que nous avions 440 restaurants. Moi, quand j'ai intégré le groupe, il y a 2 ans, il y en avait 369.
Où est le compteur, là?
Et là, le compteur, à la fin du mois, il sera 472.
Alors, parlez-nous de vos restaurants, parce qu'on parle quand même de l'univers de la fast-food, qui n'a pas forcément bonne presse, parce qu'on y mange de la viande, c'est quand même de moins en moins toléré de manger de la viande. Comment on vend de la viande et de la fast-food en 2022?
Alors déjà, nous, on travaille beaucoup sur le veggie, et ça marche très très fort. Comment on mange? Eh ben, comment on marche et on embauche dans notre secteur d'activité, vous ignorez pas que il y a un petit peu de difficulté pour recruter dans les services, particulièrement dans la restauration. Donc forcément, faut mettre en avant quelques éléments de la marque employeur, ce à quoi on s'attache depuis 1 ou 2 ans maintenant. On a quelques atouts, déjà notre capacité à accueillir tout type de candidats, à proposer beaucoup de postes différents, que ce soit l'étudiant pendant quelques années pendant ses études.
En job à côté.
Ouais, tout à fait. Que ce soit quelqu'un qui va être en retour à l'emploi, une personne qui sort des études et qui veut faire carrière, évoluer chez nous, parce qu'il y a de fortes possibilités d'évolution également en interne.
Alors, donnez-nous une idée, parmi ces 3000 postes que vous avez à pourvoir, quelles sont les catégories de postes et quelles sont celles où le DRH que vous êtes se casse le plus les dents?
Alors, les catégories, on va dire qu'on a 3 grandes catégories de postes. On a les directeurs de restaurants. En résumé, il y a un directeur par restaurant, donc on va dire qu'on va chercher une cinquantaine de directeurs. Avec quand même la volonté d'être à 80% de promotion interne, c'est-à-dire qu'en externe, on va pas aller en chercher tant que ça, finalement. On a ensuite 3 managers par restaurant, en règle générale. Donc là encore, on va être sur une recherche de 150 à 200 managers sur l'année qui vient, et puis le reste des équipiers. Après, il y a quelques postes un petit peu moins volumiques, des fonctions RH dans les restaurants, des postes au siège. Mais enfin, ça, c'est plus anecdotique.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué à trouver comme profil?
ça dépend beaucoup du lieu. Finalement, quand j'écoute aussi bien les franchisés que les directeurs, leurs discours sont pas forcément les mêmes sur leurs difficultés. D'aucuns vont avoir des difficultés à recruter l'encadrement dans telle ville, alors que d'autres vont pas avoir de difficultés pour l'encadrement, mais vont avoir des difficultés pour la partie des équipiers. Et parfois, c'est l'inverse. Donc, je ne peux pas vous donner une tendance. Clairement, c'est difficile. D'autant plus qu'encore une fois, nous, on n'est pas que sur du remplacement. On est vraiment sur de la création de l'ouverture de nouveaux restaurants. Voilà.
Alors, vous, on l'entend dans votre discours, vous maillez le territoire, Burger King, c'est un peu partout. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, Gaëlle, des endroits où peut-être c'est plus compliqué de recruter en ce moment? Est-ce que vous avez, une fois de plus, vous pouvez nous donner un peu la tendance? Pourquoi ça serait compliqué à cet endroit-là plutôt que...
Je vais un peu réitérer, hein. Franchement, je ne sais pas vous donner une règle absolue. Y a des villes, étonnamment, ce n'est pas difficile, et d'autres, beaucoup plus, et parfois on n'a pas l'explication. Alors, je vous dirais bien que dès qu'on est sur des villes frontalières, ça peut être un peu plus compliqué.
Ou des noms pour ceux qui nous écoutent.
Des villes frontalières, vous voyez bien, à l'est, des choses comme ça, ça peut être un petit peu plus complexe. Mais sinon, très honnêtement, je ne sais pas vous donner une tendance avec plus de difficultés sur une petite ville de province ou sur une grande ville. Et puis souvent, l'implantation d'un nouveau restaurant dans une zone où il n'y avait pas de restaurant nous permet peut-être un peu plus facilement de recruter que dans des lieux où il y a déjà soit certains de nos restaurants ou de la concurrence.
C'est sans doute valable dans d'autres secteurs pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, quelque chose qui est très typique chez Burger King, ce sont quand même vos campagnes de publicité. On passe rarement à côté d'un abri de bus sans avoir faim à regarder les campagnes de pub, souvent décalées, mais... quelque chose dans votre petite sauce interne, c'est que souvent ces campagnes, elles sont inspirées d'avis Google. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ?
Oui, en fait, je crois qu'on est relativement connu pour des campagnes marketing, enfin produits souvent drôles, décalés, enfin un ton très béca, comme on le dit en interne. Et puis depuis 2 ans, on s'est attelé à une tâche. Qui avait jamais été faite, c'est-à-dire de se créer un peu une marque employeur, de communiquer sur le recrutement, et on s'est dit assez vite, il faut mettre en phase notre communication marque employeur, nos campagnes de recrutement avec les campagnes produits, ce qu'on a fait. Donc assez vite, on est parti sur ce ton un peu décalé. Ça a commencé il y a un peu plus d'un an, dès le début, avec on a diffusé une lettre de candidature. Avec un slogan qui était « Recrutez-nous », en essayant d'inverser le positionnement, en proposant aux candidats de nous recruter. Et puis dans ces temps un peu compliqués pour le recrutement, où il manque de collaborateurs parfois dans les restaurants, et ça peut se ressentir sur les avis Google, on a pris le contre-pied. Donc on a pris des avis, et puis... on a répondu à ces avis qui étaient qui sont pas toujours très gentils, quoi. Finalement, on a fait des réponses en affichage, oui, humoristique, en affichage, en radio, et puis même quelques petits films sur les réseaux sociaux.
Gaëlle, un mot pour conclure. Burger King, ça appartient au groupe Bertrand.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a de la culture du groupe Bertrand qu'on retrouve chez BK, comme vous dites, chez Burger King? Et inversement, peut-être, qu'est-ce qu'il y a de Burger King dans le groupe Bertrand?
Je crois que c'est un certain humanisme, un attachement aux produits, un attachement au pays. Voilà, en résumé.
Vous avez beaucoup utilisé le masculin pour parler des différents postes. Est-ce que vous avez une certaine parité, ou est-ce que vous y travaillez?
Oui. Non, alors je m'en excuse si j'ai parlé au masculin.
En 2022, je suis obligée de vous challenger là-dessus. Ouais.
Non, clairement, sur toutes les répartitions et sur tous les indices dans toutes les sociétés, grosso modo, on est quasiment à l'équilibre systématiquement, voire même parfois on a, vous savez, les fameux indices, parfois on n'est pas à 100%, parce que dans les rémunérations les plus élevées, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc on perd des points de ce fait.
Je crois que tant que vous êtes à 73, ça va.
Oui, c'est ça. Mais on est sur en termes de nombre de personnes, on est en égalité absolue.
Et dans votre clientèle, est-ce que les hommes mangent plus de la viande ou est-ce que vos recettes veggie font succès auprès des deux sexes?
Alors, je retournerai bien la remarque de tout à l'heure. À notre époque, c'est pas bien de genrer les menus. Non, je pense que ça dépend des goûts de chacun. Quoi.
C'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Gaël Mosny, d'avoir été notre première invitée, DRH de Burger King France. On va continuer notre discussion, notre émission autour de la transparence des salaires. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Le sujet de notre séquence, c'est la transparence des salaires. Qui fait débat, peut-être dans votre entreprise, peut-être chez vous, à table et peut-être dans votre tête? Eh bien, pour répondre à quelques-unes des interrogations qui vous traversent peut-être, on a trois invités. La première, c'est Marie Hombrook. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Marie, vous êtes chasseuse de tête et fondatrice du cabinet Atorus Exécutive. On a été également avec Yael Guillon. Bonjour Gaël.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur d'Infusio et avec le DRH d'Alan, Paul Sauveplan.
Bonjour Lorraine.
Bonjour à tous les trois. Alors pourquoi Infusio et pourquoi Alan? Parce que vous êtes deux boîtes, de gabarits différentes, d'histoires différentes, de jeunesses différentes qui pratiquaient cette transparence des salaires. Alors pour démarrer, chacun dans votre rôle, un cofondateur et un DRH, qu'est-ce que ça a apporté dans votre quotidien de salarié et de patron et dans l'ambiance générale de la boîte, cette transparence des salaires? Peut-être vous pour commencer, Yael.
Alors nous, c'est plus que de la transparence, puisque chacun définit librement sa rémunération et on le fait en collectif. Donc c'est effectivement et transparent et libre. Ce que ça a amené, c'est une forme d'engagement et de capacité à travailler au service de la mission de l'organisation en collectif et dans une logique de pair et non plus dans une logique de structure dirigeant salarié ou collaborateur face à des patrons. Donc on est vraiment dans une dynamique où on va pouvoir construire et faire ensemble sans se préoccuper ni de l'historique, ni du statut, ni de quoi que ce soit.
Et chez vous, Paul, chez Alan?
Chez nous, c'est un sujet de confiance surtout. C'est-à-dire une boîte dans laquelle il n'y a pas de transparence, notamment sur des questions aussi sensibles en même temps évidentes que les salaires. Les gens se posent des questions, ça rajoute de la pression et in fine tout le monde y perd. Et c'est vraiment ça au quotidien ce que ça a le plus changé pour nous, je pense.
Ne plus avoir peur de parler de cash. On a sondé LinkedIn avec LinkedIn Actualité sur ce sujet. On a fait un petit sondage. On vous a demandé si vous étiez favorable à la transparence des salaires et à 83% sur LinkedIn, le public peut-être déjà un petit peu acclimaté, vous dites oui et vous dites non à 16%. Marie, dans votre quotidien de chasseuse de tête et de conseillère aux entreprises et à l'oreille des recruteurs, est-ce que vous sentez que ça monte, ce sujet, qui monte depuis longtemps, ou que bon, c'est un peu comme la semaine de 4 jours, on en parle, mais ça ne concerne pas tout le monde?
Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier de chasseur de tête. J'ai fait passer plus de 10 000 entretiens d'embauche. On m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que je peux avoir une voiture avec un cuir rouge? Est-ce que je peux avoir accès à une piscine? Est-ce que je peux avoir une piscine olympique? Je précise. Mais personne, en 10 ans de carrière, ne m'a posé cette question de savoir est-ce que l'entreprise pratiquait la transparence des salaires.
C'est improbable.
C'est improbable. Mais j'en ai eu des questions bizarres aussi. En tous les cas, ce que je pense, c'est que c'est un bon mouvement. Moi, j'y suis favorable. Et notamment, je pense qu'on abordera la question dans les annonces, hein, ou pas de mettre les salaires. Mais c'est pas encore arrivé jusqu'au candidat. Et j'ai aucun client qui, à date, m'a dit « moi, je le pratique ».
Alors, vous, Yael, chez Infusio, vous avez tenté de mettre cette transparence des salaires en place en 2017, je crois. Ça a été raté, ouais. Et puis vous avez recommencé. Ouais, ouais. Alors, racontez-nous rapidement cette itinérance.
Oui, la première fois, on a proposé que chacun détermine librement sa rémunération, mais on l'a fait sans préparer.
On va peut-être préciser ce que vous faites pour pouvoir le secteur.
Oui, tout à fait. On est un cabinet de conseil qui accompagne la transformation des clients qu'on accompagne, donc public, privé, lucratif, non lucratif, vers des modèles à vocation régénérative, donc dans des transformations de business model, de gouvernance et de culture. Et on expérimente au sein de notre propre organisation les limites actuelles des organisations. Donc on va chercher les frontières et on va essayer de repousser la frontière le plus fortement possible. L'une des frontières, c'est le rapport à l'argent, la capacité à comment on partage la valeur, comment on décide du partage de la valeur, comment on communique sur la création de cette valeur au sein de l'entreprise et comment on la redistribue derrière. Et le fait de partager les salaires, c'est de rendre transparent et de laisser chacun décider librement de sa rémunération, c'est un bon moyen de pousser un petit peu le les limites. Et donc, la première fois, on n'avait pas du tout mis de cadre, on n'avait pas du tout préparé. On pensait que c'était simple, puisque chacun décidait librement. Et ce qu'on a découvert, c'est que parler d'argent, c'est en fait se confronter à des choses dont on ne parle pas vraiment entre nous naturellement, c'est-à-dire ça parle de son éducation, ça parle de comment on a grandi et de quel rapport on a construit avec l'argent. Et donc, la première chose qui apparaît quand on parle de salaire, c'est du jugement, qu'on le veuille ou non. On juge, on porte un jugement sur la proposition de l'autre. Donc du coup, ça a généré beaucoup de difficultés. En gros, on était une dizaine à l'époque. La moitié de la boîte était quasiment sur le flanc.
En fait.
Pas réfractaire, mais on en a une qui est partie en arrêt maladie. Trois qui voulaient plus parler. Une cinquième qui pensait que on allait couler. Enfin, voilà, ça, grosse. Gros choc, et donc on a retravaillé ça pour un an plus tard, mettre un cadre, et depuis, ça fait depuis 2017 qu'on est dans ce format-là.
Et vous, Paul, chez Alan, licorne française, on est dans l'assurance, oui. Comment ça s'est passé ?
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Alain, parce que pour le coup, c'est une décision qui a été prise par les fondateurs depuis le tout début. Depuis le départ, moi j'étais salarié numéro 3 ou 4, et j'ai été recruté selon une grille, et cette grille, elle est partagée avec l'ensemble des salariés et surtout des candidats depuis le tout début, pour bien comprendre effectivement, déjà aligner les intérêts, est-ce que finalement ce poste-là tel qu'il me va, je vais aller dans la bonne direction ou non. Répondre à la question que finalement beaucoup de personnes peuvent se poser, c'est est-ce que je fais ce même job qu'une personne, est-ce que je suis effectivement payé la même chose, et c'est pour ça que je parlais de confiance tout à l'heure. En revanche, ce qui va de pair, quand vous parliez tout à l'heure de cadre, le sujet pour nous, il est aussi de se dire j'ai une grille, ça fait pas tout, c'est pas un miracle. Ensuite, je suis capable de bien objectiver et d'expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que telle personne est à tel niveau dans la grille versus telle personne. Et ça embarque beaucoup de choses, beaucoup d'organisation dans le process de revue, dans la capacité à effectivement inclure un maximum de pairs pour évaluer la performance. Nous, on fait ça tous les 6 mois, par exemple. Donc ça s'inscrit finalement dans un mouvement beaucoup plus global sur l'objectivation et la transparence dans l'entreprise et pas uniquement sur ce sujet salarial.
Alors, Paul, quel est le problème que vous réglez le plus, si je puis dire, autour de cette transparence de salaire ? Vous gérez à peu près 500 collaborateurs. Est-ce qu'il y a des problèmes types qui viennent autour de cette transparence et quel est celui que vous réglez le plus ?
En mettant en place ça, deux choses. La première, je pense, quel type de profil on recrute ? Est-ce qu'on recrute vraiment des gens qui sont des missionnaires, qui viennent aussi pour l'âme, qui comprennent le cadre ? Ou est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt des profils de mercenaires, qui vont, en plus de notre environnement, bouger de start-up à start-up, aller chercher le bonus et bouger ? Donc, il y a un énorme enjeu pour nous à ça. Et le deuxième sujet, il est intéressant aussi, il est aussi de se dire comment est-ce que je réaligne à un instant donné des parcours de vie qui ont pu être différents, des gens qui ont eu, parce qu'ils étaient moins vocaux que d'autres, parce qu'ils n'avaient pas fait la bonne école, alors qu'ils ont un impact donné, des décalages salariaux importants, et donc comment est-ce qu'on remet tout le monde à niveau pour ensuite vraiment pousser au maximum les personnes en fonction de leur impact et pas de leur parcours passé.
Marie, comment vous observez ça ?
Alors, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté d'attractivité pour les talents, et on en parle tous les jours, je pense, aujourd'hui, nous, tous, en tant que chasseurs de tête, quand on peut avoir des arguments pour, entre guillemets, mieux attirer les talents, pour nous, c'est un plus. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Après, moi, je pense qu'il faut quand même mettre un warning aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est très bien, mais il faut vraiment comprendre que la personne doit complètement adhérer à cette culture, sinon, ça emmène à l'échec assez rapidement. Donc, pour moi, c'est très bien. Par contre, il y a peut-être un travail aussi préalable sur les personnes qu'on va contacter, bien expliquer l'état d'esprit, parce que là, on va au-delà de juste la transparence des salaires. C'est, je rejoins toute une culture d'entreprise forte, et ça pose aussi la question derrière de l'employabilité des candidats quand ils vont sortir de ce type d'entreprise.
On parle de culture d'entreprise, mais tout à l'heure, Yael, vous parliez aussi d'éducation, de rapport à l'argent. La transparence des salaires, finalement, c'est le fait qu'on peut être jugé ouvertement parce qu'on on vaut ce qu'on gagne. Est-ce que c'est comme ça qu'on articule la réflexion en interne ? Je précise qu'à BFM, on ne pratique pas du tout la transparence des salaires.
En fait, c'est un vrai sujet, et c'est bien la problématique pour moi dans la plupart des entreprises, c'est qu'on vaut ce qu'on gagne et uniquement ça. Et ce qu'on travaille aujourd'hui, on appelle ça la reconnaissance en conscience, et on inclut dans les réflexions sur la rémunération, on inclut aussi le temps de travail. On inclut les vacances, puisqu'on est en vacances illimitées, c'est complètement relié. Et tout ce qui est autour des avantages en nature de tous ordres. Ça peut être une carte de transport SNCF, comme une voiture ou où on a déjà eu un abonnement Autolib quand il y avait une Autolib de fonction, donc d'une certaine manière. Donc c'est vraiment cette globalité-là qui est intéressante à regarder, c'est sortir de quelque chose qui est très restrictif et qui crée beaucoup de tensions, ma valeur est limitée aux chiffres que j'ai en bas de ma fiche de paye, alors qu'en réalité, on produit, on apporte de la valeur à plein d'endroits et de plein de manières différentes, et c'est ça qu'on essaye de révéler et de rendre tangible pour tous. Donc c'est un vrai processus essentiel.
Je vous partage une réaction d'auditeurs, d'auditrices qui m'ont écrit. Il y a Jérémy qui m'a écrit sur LinkedIn, il me dit « La transparence des salaires évite le nivellement par le bas. En début de carrière, j'ai accepté un salaire plus bas que ma valeur réelle sur le marché du travail et j'ai perdu énormément de temps. » Est-ce que ça peut être un argument qu'on articule quand on construit sa marque employeur et qu'on essaye de recruter sur un marché ultra tendu ? Paul, peut-être ?
Alors, j'en suis convaincu, ça rejoint l'exemple que je donnais tout à l'heure. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt la dynamique ensuite. C'est quelle est la progression de chacun, comment on l'explique. Je dis souvent, chez Alain, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on fait des revues de performance tous les 6 mois. J'ai souvent vu des gens frustrés en disant « Ah, allez, j'ai raté sur ce coup-là, je l'aurai le coup d'après. » J'ai jamais vu personne se dire « un tel ou une telle a été promu et je comprends pas pourquoi. » Et ça, pour le coup, c'est là où on vient changer aussi la manière dont on se regarde collectivement et on se tire tous dans la même direction, je pense.
J'ai Audrey qui m'a écrit « Le plus pertinent serait une transparence de salaire au sein de chaque profession ou en fonction du statut pour que la comparaison ne perde pas de sens. » Audrey, Marie, pardon, est-ce que ce sont des genres de services ? L'auditrice s'appelle Audrey, je vous l'ai dit. Marie, est-ce que c'est quelque chose que, quelque part, vous faites, vous, dans votre travail de chasseur de tête, de déjà, en fait, catégoriser les grilles de salaire ? Est-ce que ça n'existe pas déjà, finalement, au niveau du TU ?
Alors, ce qui est assez marrant, moi, quand je suis arrivée dans ce métier de chasseur de tête, c'est la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de grilles de salaire, mais en réalité, elles sont pas toujours suivies. Mmh. Et va savoir pourquoi, d'une entreprise à l'autre, pour un même poste, à des mêmes niveaux d'expérience, on va avoir des rémunérations qui seront très variées. Maintenant, est-ce que c'est complètement applicable ? Est-ce qu'on va avoir le même niveau de pression d'une entreprise à l'autre ? C'est pas toujours évident de pouvoir appliquer ça de manière complètement uniforme. Et donc, je sais pas si ce serait une très bonne chose pour la compétitivité entre les entreprises. Donc moi, je le recommanderais pas forcément. Et surtout, il y a un point, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le salaire, la notion de salaire, la notion de valeur pour le candidat, pour la personne qui va négocier ce salaire, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas naturel, on l'apprend pas à l'école. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ces éléments, mais l'uniformisation, j'en suis pas certaine.
Bon, en tout cas, on a de moins en moins peur de parler de cash. Vous le savez peut-être, New York impose depuis le 1er novembre aux employeurs d'indiquer sur les annonces les fourchettes de salaire. En France, on commence à le voir, Indeed France, mais aussi Hello Work qu'ils pratiquent. Peut-être pas transparence au niveau de toutes les entreprises, mais en tout cas, transparence dans la communication, déjà sur la fiche de poste, c'est déjà peut-être une bonne information. On aurait 1000 choses encore à se dire, notamment, on n'a pas évoqué les côtés négatifs de cette transparence. Fuira ce sujet, je vous remercie tous les trois. Marion Brooke, fondatrice du cabinet Atorus Executive, Yael Guyon, fondateur d'Infusio, et puis Paul Sauveplane, le DRH d'Alan. Merci à tous. Restez avec nous, on va parler d'engagement salarial.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Le business case de la semaine, ce sont les mystères de l'engagement salarial. Pour percer ces mystères, c'est Ségolène Moutarde qui est avec nous. Bonjour Ségolène.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Team Starter. Pitchez-nous en 30 secondes ce que vous faites depuis 2019.
Team Starter, ça démocratise la prise d'initiative. Ça permet à tous les collaborateurs chez nos clients de pouvoir porter et réaliser des projets au sein de leur entreprise grâce à un budget alloué mensuellement par l'entreprise, par exemple 20-30 euros par mois, pour leur permettre d'agir à leur échelle et de pouvoir contribuer à leur entreprise.
Près de 3000 projets à impact, comme on dit dans le jargon. Quels sont, disons, les deux plus beaux projets que vous avez vus passer ?
Alors,
et quel budget ?
Un projet qui m'a marqué récemment, c'est une collecte de Lego pour créer des rampes d'accès dans les agences bancaires pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. C'est un projet petit budget, je crois une centaine d'euros, mais qui a mobilisé énormément de collaborateurs en interne. Le deuxième que je trouve vraiment génial chez un de nos clients, c'est l'écriture d'un compte pour enfants pour permettre aux collaborateurs d'expliquer leur métier de manière racontée à leur enfant. Voilà. Bon, voilà, des projets très divers et variés. On parle, je disais en introduction, les mystères de l'engagement. Parce que c'est un mot extrêmement galvaudé. Tout le monde parle d'engagement. Il y a quand même une frontière entre l'engagement perso et l'engagement pro dans l'entreprise qui est assez floue. Quelle est votre définition de l'engagement? Comment vous définissez l'engagement chez Team Starter?
Pour moi, l'engagement, c'est un collaborateur qui va vouloir adhérer à son entreprise, à sa culture, à sa vision et qui va vouloir y contribuer au-delà de ses obligations. Donc pour moi, c'est un mélange d'engagement individuel, un engagement collectif. C'est aussi beaucoup lié au sentiment d'appartenance, d'implication qu'on va venir aussi chercher. Et nous, on va venir activer ce dernier levier avec Team Starter parce qu'on pense que finalement, baby-food, corbeille de fruits, ça ne sert pas à grand-chose. Pareil, mettre des happiness officers, ça ne sert pas à grand-chose. Pour nous, il faut laisser les collaborateurs décider de ce qu'ils souhaitent en entreprise et c'est comme ça qu'on va réussir à les engager et les engager réellement en leur permettant d'agir à leur échelle et d'être acteurs de leur entreprise.
Bon, vous revendiquez des statistiques qui font rêver. Hein. 82% des collaborateurs, collaboratrices se disent plus engagés et plus acteurs grâce à une solution comme la vôtre. Quelles sont les variables? Comment vous mesurez cet engagement?
Alors nous, on a un outil. En fait, tous les collaborateurs chez nos clients ont accès à la plateforme Team Starter avec un budget. Et en fait, tout simplement, on va leur poser régulièrement des questions de manière anonyme pour mesurer leur taux d'engagement dans le temps et de voir si la mise en place d'une solution comme Team Starter a eu un réel impact sur eux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, un collaborateur qui porte un projet, forcément, c'est un collaborateur qui va être beaucoup plus engagé parce qu'il va pouvoir agir, il va pouvoir changer ses conditions de travail, il va pouvoir améliorer son quotidien, améliorer aussi sa relation potentiellement avec ses collègues, notamment avec le télétravail, le modèle hybride, on se sent de plus en plus éloigné, ouais. Perte de sentiment de sens, perte de sentiment d'appartenance. Et donc, c'est hyper important justement de pouvoir quand même se sentir appartenir à son entreprise. Et c'est pour ça que les outils sont aussi extrêmement importants.
Vous avez une centaine de clients, notamment des grands groupes, dans la banque, dans le luxe. Et les PME dans tout ça, est-ce que les PME viendraient vous voir avec les mêmes problèmes que les grands groupes? Et quels problèmes vous mettent sur la table vos prospects ou les clients qui viennent vous solliciter?
Alors nous, on a autant de PME ETI que de grands groupes. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la majorité des collaborateurs ont des bonnes idées, mais ces idées, elles n'émergent pas. Parce qu'en fait, il y a un problème de hiérarchie. Il faut en parler à N+1, N+8, N+10, lourdeur administrative, etc. Et donc, les petites idées du quotidien, elles se perdent. Et ça, en fait, peu importe la taille. Qu'on soit 100, finalement, moi je dirais au-dessous de 100, on n'a pas besoin de nous. Au-dessus de 100, on a besoin de nous. Et donc, l'idée pour nos clients de faire appel à nous, c'est de matérialiser leur culture d'entreprise en tout simplement confiant une responsabilité à leurs collaborateurs à travers Team Starter et en leur donnant la possibilité tout simplement de pouvoir proposer des projets et de s'impliquer, peu importe leurs idées. Alors bien sûr, les thématiques, la RSE, la qualité de vie au travail, l'expérience collaborateur, ils vont venir choisir. Mais voilà, l'idée pour nos clients, c'est de faire appel au bottom-up et surtout que ça soit très concret. Parce qu'en fait, dans les entreprises, il y a quand même de plus en plus de bullshit. Et à travers Team Starter, c'est très concret. On voit tous les projets qui ont été proposés, ceux qui ont été menés. Et ça leur sert aussi pour les candidats, puisqu'en fait, notre plateforme est présentée dans tous les process d'embauche, puisque c'est très concret. On voit les centaines de projets qui ont été menés. Le collaborateur, il sait que quand il arrive dans l'entreprise, il a un budget, il a une capacité d'action. Et donc, ça permet de contrer un peu le côté no bullshit et de matérialiser la culture d'entreprise de bottom-up, de responsabilisation et de confiance aussi.
Voilà, les idées qui viennent du bas. Finalement, ça devient presque un avantage salarié, comme avoir une bonne mutuelle, avoir une carte ticket restaurant ou avoir des BSPCE. C'est un outil que vous mettez dans la caisse à outils du recruteur.
Exactement. Si je dis bien le bon chiffre, on a un tiers des collaborateurs qui ont dit que c'était un élément qui a impacté leur choix de rejoindre l'entreprise, d'avoir Team Starter. On a à peu près 85% de taux d'adoption, et 50% de taux d'usage. Donc on est extrêmement utilisé en entreprise et donc ça devient de plus en plus important parce que les collaborateurs sont de plus en plus en recherche de sens. Avant c'était salaire, carrière, maintenant c'est sens, responsabilisation, et donc on va venir agir là-dessus.
Voilà un des mystères de l'engagement salarial peut-être percé. Merci beaucoup Ségolène Moutarde, vous êtes la cofondatrice de Team Starter. C'est la fin de cet épisode d'Happy Boulot. Le Mag, vous pouvez nous retrouver bien sûr en vidéo à la demande, en podcast et puis en direct peut-être ce week-end sur BFM Business. Merci à toute l'équipe et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres discussions sur la vie de bureau, le bonheur au travail et puis le management.
BFM Business, Happy Boulot, le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre